Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Donna et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison de Dans la bibliothèque du Paris Noir, j'ai l'immense privilège d'être à l'université de Chicago. Je vous en dirai plus sur ce séjour dans un prochain épisode. Cet épisode est comme toujours en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Notre but est de vous présenter un livre, ou cette fois-ci un article, lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un article intitulé « L'émergence des parlers créoles et l'évolution des langues romanes, faits, mythes et idéologies », paru en 2015. Et pour en discuter, je suis en présence de l'auteur, le professeur Sally Coco Moufouené. Vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Chicago. En 2022, vous avez été élu à l'American Philosophical Society et cette année à l'Academy of Arts and Sciences. Vous êtes expert sur l'origine et l'évolution des langues créoles. Vous travaillez sur l'évolution du langage, y compris les effets de la mondialisation sur les langues modernes. Vous occuperez la chaire annuelle Monde francophone au Collège de France pendant l'année académique 2023-2024. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur ce thème, l'évolution des langues créoles, un pur produit de l'histoire coloniale?
Tout commence au moment où j'ai eu mon doctorat et j'ai cherché du travail. C'était en 1979. Et alors, l'université de West Indies en Jamaïque m'a offert un boulot. Et je suis allé, je suis arrivé en janvier 1980. Et j'ai découvert que les Jamaïcains étaient beaucoup intéressés à la question de langue créole, et surtout le créole jamaïcain. Et moi, j'avais été formé en syntaxe et sémantique, quelque chose de tout différent. Et je me suis rendu compte que je serais inutile si je ne m'intéressais pas aussi aux langues créoles. Voilà, c'est le début. Et alors, je me suis lancé et j'ai commencé à soulever beaucoup de questions sur l'état des choses. Je n'étais pas tellement satisfait des analyses qui circulaient en ce moment-là. Et voilà, petit à petit, quelque chose que je faisais comme une sorte de hobby, à part de ma formation en syntaxe et sémantique, est devenu vraiment ma préoccupation. Et puis, deux ans plus tard, c'était en 1985, beaucoup plus tard, j'ai été invité à une conférence à Amsterdam sur les origines de langue créole. Et je suis allé plus ou moins comme amateur. Et à nouveau, je me suis rendu compte qu'il y avait des interprétations qui ne faisaient pas beaucoup de sens. Et j'ai soulevé beaucoup de questions, mais je me suis aussi rendu compte que je connaissais très peu sur l'histoire de l'esclavage et que pour répondre à certaines questions, il faudrait que je lise sur l'histoire de l'esclavage, que je vois quelles sont les structures sociales, structures de population qui étaient engendrées par l'esclavage sur les plantations. Et en mêlant ça, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions et j'ai fini par développer une approche que j'appelle écologique. Et ça signifie qu'on ne peut pas vraiment parler de l'histoire d'une langue dans l'abstrait et qu'il faudrait situer cette histoire dans l'histoire de la population ou des populations concernées. Et c'est comme ça que mon travail m'a amené à plus ou moins développer un cadre de recherche, une sorte de framework dans lequel on pourrait poser des questions très intéressantes. Et l'une des questions, c'est si l'émergence des langues créoles était tellement différente de l'évolution des langues romanes. Et voilà. Vous avez lu l'explication que je donne.
Je voudrais justement qu'on commence par le début. Le mot créole est un mot ambigu, il a plusieurs sens. Donc commençons par être précis, qu'est-ce qu'une langue créole? En quoi on la distingue des pidgins? Et pourquoi sa définition est parfois arbitraire? Tel parler se revendique comme créole, alors qu'un autre qui a une histoire similaire ne revendique pas ce statut de langue créole.
Vous avez posé une question très ciblée et qui est très bien informée. Le terme créole devient de plus en plus, je ne sais pas si on dit ça en français, élusif. En sorte que plus on y travaille, moins ça devient clair. Dans ce sens-ci que Le terme créole, quand on l'a utilisé au début dans l'histoire de la colonisation, on parlait des êtres humains dont les ancêtres sont venus de l'Europe et de l'Afrique et qui sont nés dans les colonies et qui ne pouvaient pas se réclamer comme indigènes parce que c'était, dans le cas des Amériques et des Antilles, ce que nous appelons Native Americans, qui avaient droit au titre d'indigènes. Et donc, les autres, on devait les identifier comme créoles pour les distinguer des autres. Et alors, vers le XVIIe siècle, on a commencé à faire allusion à un parler de Noirs qui ne reproduisait pas facilement le parler européen. Mais cela dépend du jugement de l'individu. Ce n'est pas quelque chose de très objectif. Et on a signalé, par exemple, que dans la partie du Sénégal qui est connue aujourd'hui comme Casamance, les Noirs là-bas parlaient un portugais qui était drôle et un portugais de créole. C'est la première fois que quelqu'un utilisait un terme, le terme créole en référence au parler des esclaves ou des non-européens dans les colonies européennes. Et évidemment, Casamance, d'aujourd'hui, en ce moment-là, était une colonie de traite et pas une colonie d'exploitation que le Sénégal deviendra plus tard. Et dans la colonie de traite, il y avait des indigènes africains qui restaient dans l'effort de traite. Et dans ce contexte-là, l'histoire est un peu plus complexe, mais pour abréger ça, les Noirs ont parlé créole, parlé portugais. Et je ne pense pas que les Portugais eux-mêmes appelaient ce parler-là créole, mais c'est un Français qui est passé par là, qui lui-même ne parlait même pas portugais, et qui a dit que les Noirs parlaient portugais d'une façon drôle, c'est M. Darveillé. Et moi, je me demande, mais comment il a pu déterminer, parce que lui-même ne parlait pas portugais. Ça, j'ai découvert ça beaucoup plus tard, récemment, quand j'ai fini par lire le livre du Sieur Darveillé. Donc, là-dedans, il dit lui-même qu'il a appris le portugais chez les Noirs. Et donc, c'est un peu bizarre, un peu contradictoire. On peut voir le biais qu'il y a là-dedans. Et c'est au XVIIIe siècle, plus tard, en 1770, Oldendorp, un missionnaire danois, il était aux Antilles, et lui, il a parlé du parler des créoles. En anglais, c'est creoles, avec un possessif, creoles speaking, creoles language. Alors, plus tard, ce sont les linguistes qui modifient créole du statut de nom au statut d'adjectif et ils commencent à parler de langue créole.
Du coup, j'ai une double question. Donc, vous parliez donc de l'émergence de ces langues romanes à partir du latin vulgaire. Du coup, peut-on dire que le français, par exemple, est un créole latin ? Et la deuxième question, c'est... Puisqu'elles empruntent une grande partie de leur lexique au français, peut-on dire que les créoles dans les anciennes colonies françaises, du Nouveau Monde et de l'océan Indien, sont des langues romanes à leur tour ?
La supposition, l'hypothèse selon laquelle les langues romanes seraient des créoles latins, on l'a déjà discuté pendant les années 1970. Et ma réponse à ça, c'était les gens... Ben, il voyait bien le parallélisme que je veux souligner maintenant. Mais si on continue de cette façon, on finira par appeler toute langue moderne une langue créole. La raison, c'est que l'histoire de l'humanité, depuis l'exode de l'Afrique, est une histoire non pas seulement de la dispersion de l'être humain à partir de l'Afrique aux autres continents, mais c'est aussi une histoire de colonisation mutuelle où les êtres humains se sont colonisés. La colonisation dont nous parlons le plus maintenant, c'est vraiment la fin d'une longue histoire de succession de colonisations. Voyons l'Empire romain, par exemple. C'est une histoire de colonisation. On voit l'expansion de la Chine, des Chinois dans la Chine. Mais il y a maintenant un pays plus ou moins continental, aux dimensions continentales, qui est le résultat de l'expansion de la population sinitique dans un monde qui n'était pas toujours sinitique. On voit où se trouve, où l'anglais est né. Ce sont des populations germaniques qui sont allées coloniser des populations celtiques en Angleterre et à partir de là, ils se sont répandus dans les îles britanniques. Prenons maintenant la population bantou. La population bantou, le homeland comme on l'appelle en anglais, se trouve vers la frontière du Cameroun et du Nigeria. Et à partir de là, les populations sont dispersées en Afrique centrale et en Afrique australe, qui étaient des territoires pygmées et des Khoi et des San. Mais maintenant, les populations bantoues sont devenues les populations dominantes de la région. C'est une sorte de colonisation. On voit l'Afrique du Nord. Au 7e siècle arrivent les Arabes. Ils se répandent très vite. Ils sont devenus la population qui domine dans la région. Ça, c'est une forme de colonisation. Donc, si on continue comme ça, toute l'histoire humaine est une histoire de colonisation et souvent de colonisation mutuelle. Et si on doit faire une distinction, il y a une interprétation du mot colonisation qui signifie seulement relocalisation. Donc, on part d'un territoire, on va s'installer dans un autre territoire, on s'engage à domestiquer le nouveau territoire et on devient indigène dans ce territoire. Mais si on y rencontre des populations qui vous ont précédé, il faut négocier les conditions de coexistence. Et dans beaucoup de cas, c'est la population suivante qui a soumis la population préexistante. Et ça, c'est la forme de colonisation qui nous a intéressé le plus maintenant. Et donc voilà, ça répond à la question parce qu'à chaque fois que les populations se rencontrent, ils renégocient aussi la langue de communication. Et la langue qui est adoptée parce qu'elle subit l'influence de l'autre des langues parlées par les autres populations, elle change aussi. Donc dans ce cas, on parlerait de toutes les langues du monde comme étant des créoles. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Nous avons déjà le terme langue qui nous suffit bien. Ce qui importe, c'est de dire que toutes les langues modernes qui sont parlées maintenant reflètent des conséquences de contact de langues.
Est-ce que ça fait des créoles martiniquais, haïtiens, guyanais, réunionnais, des langues romanes?
La réponse logique, c'est oui. Parce que, voyons, les gens qui parlent les langues romanes, ce ne sont pas nécessairement des descendants des Romains. Et donc, mais nous les appelons des langues romanes. Alors, pourquoi c'est quand les langues romanes sont adoptées par d'autres populations qui les modifient, on dit que ce sont des langues différentes, elles ne sont plus des langues romanes. Ça, c'est une décision arbitraire. Ça, c'est une conséquence des attitudes racistes que les Européens avaient à l'endroit des Africains et d'autres populations non européennes qu'ils considéraient inférieures. Et pour ça, ils se disaient, ces gens, ils ont tellement restructuré notre langue et au point où nous ne pouvons plus la comprendre. Et donc, c'est une langue nouvelle et cette langue n'appartient même pas à la famille de notre langue. C'est comme ça. C'était une sorte, le terme anglais que j'utilise souvent, et c'est disenfranchisement. On les exclut de la franchise des langues légitimes. Et donc voilà, c'est ce qui est arrivé.
Je suis martiniquais, j'ai grandi là-bas, j'ai fait une partie de mes études là-bas, et ça me rappelle la prépa littéraire, où on avait donc un prof d'anglais, avec qui donc était hexagonal, métropolitain, qui nous faisait faire des versions, donc traduire des textes de l'anglais vers le français. Et quand c'était des élèves noirs, antillais, qui faisaient une proposition qui ne lui convenait pas, il disait tout le temps « c'est un créolisme ». Et il disait jamais ça aux blancs. Et donc, il y a cette part de subjectivité que je trouve. Alors, effectivement, les créolismes, ça existe. Et parfois, nous faisions des créolismes. C'est possible. Mais il y a aussi des fois où c'était... Bon, ben, certaines bouches disent ça, c'est juste une erreur. Et puis d'autres, c'est des créolismes. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'interprétation, effectivement. Dans ce processus d'émergence de langue créole, on a beaucoup parlé... Oui, vous vouliez dire quelque chose ?
Cette observation est tout à fait correcte. Mais je voudrais ajouter à ça quelque chose de drôle. En même temps qu'on dit les créoles ne sont plus des langues européennes, quand on compte combien de gens parlent anglais au monde ou combien de gens parlent français au monde, on compte les créoles. Donc il y a une sorte de contradiction.
C'est pour gonfler les effectifs. On a beaucoup parlé donc du lien de la base lexicale européenne, française, latine, etc. Mais dans le processus d'émergence des langues créoles, quelle place accordée aux langues africaines dans ce processus arrive-t-on à bien retracer cette généalogie ?
Il y a des gens qui disent les créoles n'ont que le vocabulaire européen et la grammaire est à partir des langues africaines. Quand on pense à la multitude de langues africaines qui sont différentes les unes des autres, on se demande la grammaire de quelle langue. Okay. Mais en fait, nous avons affaire à une hybridisation, ou hybridation, je pense qu'on dit en français. Nous avons affaire à une hybridation, et ça, les traits se mélangent, juste comme l'hybridation qui produit des enfants en biologie. Dans ce sens-ci que l'enfant hérite tous les traits biologiques des parents, mais la force des différents traits change chez l'enfant. Par exemple, l'un des parents a des yeux bleus et l'autre a des yeux bruns, et l'enfant n'a pas une couleur intermédiaire, mais choisit, c'est pas tellement l'enfant qui choisit, mais son mécanisme qui l'a amené en vie choisit, soit les yeux bruns, soit les yeux bleu. Un parent peut avoir des cheveux blonds et l'autre des cheveux noirs, et l'enfant aura soit des cheveux noirs, soit des cheveux blonds, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a un processus de sélection qui a lieu. Et dans le cas des langues créoles, c'est la même chose. Il y a des moments où c'était les traits linguistiques d'un groupe de langues africaines ou des traits linguistiques de la langue cible. Il y a un mélange là-bas et on doit faire attention. Et mon hypothèse, c'est en fait parce que l'intention des Africains était d'apprendre la langue européenne, non pas parce qu'elle était supérieure, mais parce que c'était difficile pour eux de survivre dans les nouvelles conditions de vie s'ils n'apprenaient pas la langue européenne. Et chacun faisait de son mieux pour l'apprendre le mieux possible. Mais il n'y avait pas de classe où on enseignait la langue européenne. On apprenait la langue européenne par immersion. Et les locuteurs de langue cible n'étaient pas toujours des locuteurs natifs non plus.
C'est ma question suivante.
Voilà. Et donc moi, par exemple, je me rappelle en partant du Congo, j'avais appris l'anglais, mais j'avais appris l'anglais à partir des professeurs belges qui n'étaient pas des locuteurs natifs de l'anglais. Et en fait, j'ai rencontré certains de ces professeurs. Ils hésitent de parler en anglais avec moi. Ils préfèrent qu'on parle français maintenant, peut-être pour que je ne découvre pas les faiblesses que je n'avais pas découvertes avant. Oui. Mais alors, l'autre hypothèse, c'est que les parents étaient tellement incapables d'apprendre la langue des Européens qu'ils ont produit le « broken language ». Et alors, les enfants sont venus et ils ont dit « mais ça, c'est pas une langue. Nous avons droit à une langue. » Et les enfants ont créé une langue. Ce qui est très drôle parce que les enfants dépendent des parents pour parler. Et ce qu'on avait négligé, c'est que tout adulte qui apprend une nouvelle langue passe par une phase d'interlangue. Interlangue, c'est qu'on n'a pas tout à fait acquis la langue cible, mais on parle comme on le peut, Et petit à petit, on va améliorer sa compétence pour pouvoir mieux parler. On ne sera jamais égal au locuteur natif, mais on sera capable de parler comme moi, par exemple, qui a appris le français comme un adulte et qui peut parler français maintenant. Et puis, les enfants, eux, comme locuteurs natifs, selon cette hypothèse, comme ils n'avaient plus accès ou assez d'accès aux locuteurs natifs de la langue cible, ils ont capitalisé sur la capacité humaine de créer une langue. C'est ce que certains linguistes appellent grammaire universelle. Et que la grammaire créole serait la chose la plus proche à la grammaire universelle. Ils se posent des questions. On voit que c'est une idée ridicule. Si tout le monde avait commencé par utiliser la grammaire universelle, pourquoi est-ce que nous avons abouti à avoir autant de langues au monde? Ou pourquoi les structures des langues parlées aujourd'hui ne sont pas identiques d'une langue à l'autre?
Je voudrais qu'on revienne à quelque chose qui m'a paru essentiel dans l'article. C'est la nature de la colonie. Vous dites que, en gros, la nature de la colonie est un élément clé dans l'apparition d'un créole. Donc, il y a des colonies, par exemple, comme Haïti ou la Jamaïque, qui produisent des créoles, alors que d'autres colonies, comme l'Argentine ou le Canada, n'en produisent pas. En quoi le contexte de la plantation, vous en avez déjà un peu parlé, mais en quoi le contexte de la plantation joue un rôle majeur dans l'émergence d'un créole?
Ce n'est pas seulement les plantations en tant que telles, c'est la structure de population engendrée par la plantation, le phénomène plantation. Si on compare par exemple Haïti au Brésil, le Brésil avait importé bien plus d'Africains qu'Haïti. Et le Brésil avait commencé la culture de la canne à sucre 100 ans avant Haïti, une centaine d'années avant Haïti. Et pourtant, le Brésil n'a pas produit un créole. Haïti en a produit un, variable d'une partie d'Haïti à une autre partie d'Haïti. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ségrégation raciale bien instituée dans la colonie d'Haïti, au Saint-Domingue, mais ce n'était pas le cas au Brésil. Nous devons cesser de confondre ségrégation et discrimination. Il y a toujours eu discrimination, sans quoi les populations africaines n'auraient pas été asservies, sans quoi les populations africaines n'auraient pas été traitées d'une façon aussi inhumaine. L'esclavage était une cruauté et ça s'est associé avec la discrimination. La ségrégation a affaire à la distribution des résidences. Qui vit où? Qui peut socialiser avec qui? Et les gens qui ne socialisent pas ensemble ne vont pas développer la même langue. Ils ne vont pas parler la même langue de la même façon. C'est ça qui explique ça. Donc, au Brésil, où les Africains avaient plus de contact avec les Portugais, ils parlaient tous de la même façon. À Haïti, où les Français, surtout les propriétaires des esclaves, ne vivaient pas côte à côte avec leurs esclaves, et que la population servile est devenue beaucoup démographiquement plus importante que la population des propriétaires. Donc, une langue différente s'est développée, une variété langagière différente s'est développée parmi les populations serviles, différente de la façon dont les Européens parlent. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils parlent des langues différentes. L'un des problèmes avec Haïti, c'est qu'il y a une classe gouvernante, des gens qui sont surtout de teint clair et qui sont des descendants de cette classe dirigeante de la population blanche et qui ont appris à parler comme leurs parents. Et les autres, majoritairement de teint sombre, qui parlaient autrement. Évidemment, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont été à l'école et tout ça et qui apprennent à parler français, mais ça, c'est vraiment la distinction fondamentale. Il y a cette distinction qui est toujours faite. Donc, ça c'est pour mettre en valeur l'importance de la structure des populations. En plus, ce qu'on voit aussi, c'est que au Brésil, les Portugais n'ont pas développé des plantations du même type qu'à Haïti ou aux Antilles en général, il n'y a pas eu de grandes plantations au Brésil. Il y avait plus de Noirs, mais les Noirs étaient distribués plus ou moins, étaient distribués sur plusieurs fermes. La population des fermes, généralement, ne dépassait pas une trentaine de personnes. Donc, quand la population est petite, on ne peut pas instituer une ségrégation résidentielle qui va fonctionner. Parce que la population gouvernante sera trop petite et elle devient très vulnérable. Tandis que quand on a une grande plantation et qu'il y a peut-être, disons, une vingtaine, une trentaine de colons européens, ils peuvent vivre seuls, séparés des autres. Mais s'il y a une petite population de 5 colons européens ou de 10 colons européens par rapport à une vingtaine de populations serviles, ça c'est très dangereux, ça rend les Européens très vulnérables. Donc les Portugais, étant donné la façon dont ils ont développé leur culture de la canne à sucre, ils n'ont pas développé de grandes plantations, mais ils ont tout de même produit beaucoup de sucre avant que Haïti ne devienne le plus grand producteur du sucre au XVIIIe siècle. Avant ça, les Portugais étaient les plus grands producteurs du sucre. Donc, il y a eu esclavage dans les deux colonies, il y a eu discrimination dans les deux colonies, mais seulement, les deux colonies n'ont pas établi les mêmes structures de population et on peut voir les conséquences. On peut voir la conséquence de la structure de population aussi en Afrique où nous avons adopté soit l'anglais, soit le français. Parce que les Africains sont devenus majoritaires. Mais les populations africaines étaient aussi ségrégées des populations des colonisateurs. Les colonisateurs vivaient dans leur quartier où les Africains ne mettaient pas pied, sauf les domestiques qui les aidaient. Et puis, les Africains n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt à apprendre les langues européennes non plus, sauf les gens qui sont allés à l'école et qui devaient servir d'auxiliaires coloniaux. C'est à cause des auxiliaires coloniaux qui sont devenus des gouvernants en Afrique que le français se répand, que l'anglais se répand, mais toujours est-il qu'il y a une majorité dans la plupart des pays, il y a une majorité africaine qui ne parle pas encore la langue européenne. Ou s'ils la parlent, ce n'est pas du tout, ils n'ont pas une compétence bien développée dans la langue européenne. Ça, c'est une conséquence de la structure de population. Alors qu'en Europe, ce qui est arrivé, c'est que les indigènes, ceux qui ont remplacé les Romains dans l'ancien Empire romain, ils ont adapté la langue de Rome, le latin, et ils ont utilisé le latin pour toute l'économie en général. En Afrique, le français ou l'anglais n'est pas la langue de toute l'économie en général. La conséquence est qu'en Europe, là où les gens ont maintenu le latin en fonctionnant comme la langue de toute l'économie en général a fini par se répandre dans toute la population et nous en savons les conséquences. Les langues romanes, on peut les comparer au créole. En Afrique, ce n'est pas tout à fait la même chose.
J'ai encore quelques petites questions pour vous. La première, c'est Frantz Fanon consacre le premier chapitre de Peau noire, masque blanc aux Noirs martiniquais qui séjournent en France hexagonale et qui rejettent le créole au profit du français. Donc cet ouvrage, il a été écrit en 1952 et il reste encore assez pertinent. On voit bien comment la domination coloniale peut dénigrer certaines langues pour en valoriser d'autres. Pourtant, depuis des décennies, il y a une réhabilitation du créole. Je pense à des initiatives comme celle de l'auteur guadeloupéen Timalo qui fait un podcast qui s'appelle « Tendre et comprendre intégralement en créole ». Kofi Djijo qui souhaite revaloriser la langue et compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram.
Alors pendant le confinement, je me suis dit que ce serait intéressant de faire des dictées pour promouvoir la langue pendant que les gens avaient un petit peu de temps. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que pendant le confinement, je ne disais pas le confinement, je disais l'embocaillement.
Embocaillement, oui, ça c'est
Voilà.
super.
Voilà, c'est un néologisme que j'ai créé pour peut-être donner un petit côté plus positif à la situation. Parce que bon, le fait d'être bocaille, c'est finalement pas si mal puisqu'on a le temps de se ressourcer. C'est l'embocaillement, donc aribocailler. Donc, c'est le retour aux sources aussi.
Ouais, c'est moins carcéral, effectivement,
Oui.
embocaillement, donc arrêtez bocaille.
Je pense à la poétesse Simone Lagrand qui étudie la littoralisation de la langue. Quel est votre regard sur ce phénomène, vous qui travaillez sur les langues créoles depuis des décennies? Est-ce que vous avez un avis?
La réponse, c'est que le créole est devenu une marque identitaire. En fait, je dirais le créole est plus en danger en Martinique qu'en France. Dans ce sens, c'est que le Martiniquais ou le Guadeloupéen ou le Guyanais qui se retrouvent en France et qui ne se sentent pas acceptés comme un citoyen français à cause de sa peau. Dans ce genre d'exclusion, il s'attache plus à son identité et une partie de cette identité, c'est parler créole. Et quand il retourne en Martinique pour prouver qu'il n'a pas changé, il pourrait parler créole avec une sorte de vengeance pour affirmer qu'il n'a pas changé. Alors qu'en Martinique, ce qui se passe, les parents pensent que leurs enfants vont mieux réussir s'ils ne parlent pas créole et ils refusent parfois de parler créole à leurs enfants. Le créole ne meurt pas parce que quand les enfants deviennent des adolescents et qu'ils jouent entre eux, ils trouvent aussi qu'il y a une certaine créole qui n'est pas hexagonale, il y a une certaine culture qui n'est pas hexagonale, qui se développe beaucoup plus en créole qu'en français. Et que pour appartenir à cette culture, il faut connaître le créole. Si on ne le parle pas régulièrement, il faudrait être capable de l'interpréter ou de le parler aussi. Mais en France, quand on se sent rejeté, ça devient, le créole devient le tissu qui rallie les gens des départements d'outre-mer. Et donc voilà, ce sont les dynamiques de la structure des populations qui explique même la vitalité de la langue créole.
Dans l'article, vous affirmez que le temps démontrera, longtemps après nous, le sort de la vitalité des parlers créoles et ce à quoi leurs structures ressembleront. Évoluer vers des formes standardisées, académisées, vous parlez d'acrolecte, ou vers des formes naturelles sans l'intervention des académiciens. Si vous deviez parier, sur quel scénario miseriez-vous?
Pour quelqu'un qui fait l'étude de l'évolution, on dit, nous avons un regard tourné vers le passé et pas vers l'avenir. Mais on peut faire certaines prédictions. Mais ce sont des prédictions auxquelles il ne faut pas faire beaucoup de confiance parce que c'est là où on entre dans l'univers de la complexité. Il y a beaucoup de facteurs, de paramètres que l'on ne peut pas contrôler. Et mon approche dans ce cas a été toujours basée sur le développement de l'économie. Est-ce que l'économie va se développer et dans quelle langue est-ce que l'économie va se développer? En parlant du latin en Europe, j'ai dit que les Européens ont développé toute l'économie dans le latin. Dans plusieurs parties du monde, ce n'est pas le cas. Par exemple, en Afrique, c'est seulement le col blanc qui se développe en français, alors que le reste de la population fonctionne dans les langues indigènes. Pour Haïti, par exemple, on connaît que l'économie d'Haïti ne fonctionne pas vraiment. L'économie moderne et les gens ont du mal à survivre. Et les gens qui ont du mal à survivre, ils parlent les créoles. Ils ne peuvent même pas s'investir dans l'apprentissage de la langue française. Et d'une certaine façon, parce que l'économie en français en Haïti ne se développe pas. Il n'y a pas beaucoup de motivation pour s'investir dans la langue. La motivation des gens, c'est l'exil et ils vont apprendre, les exiliés apprennent la langue du pays hôte. Donc aux États-Unis, par exemple, eux, ils apprennent l'anglais et pas le français. Et si on leur parle en français, c'est une langue étrangère pour eux, c'est mieux de leur parler en créole. Alors, dans le cas de Martinique, la Martinique est un département d'outre-mer. Comme département d'outre-mer, ça dépend de comment l'économie se développe en Martinique. Surtout en français, Donc, il y a beaucoup de place pour le français en Martinique. Mais si l'économie se développait en créole, donc il y a encore beaucoup de chances pour le créole. Le créole peut survivre. Il est aussi possible qu'il y ait toujours une certaine duplicité, qu'il y ait une partie de la culture martiniquaise qui se vit mieux en créole qu'en français, alors qu'il y a une autre partie de la culture qui est consistante avec la philosophie de la France comme pays qui est uni par une langue et que tout le monde devrait parler français. Et cela pourrait créer un état de bilinguisme permanent où il y a certaines choses qui se font en créole et il y a certaines choses qui se font en français. Mais ça, ce sont des spéculations pour l'avenir. Ça dépend de comment les choses vont évoluer. Il est possible qu'à un moment, la Martinique se dit qu'elle voudrait être indépendante, qu'elle en a assez de la marginalisation de la France. Ici, je deviens subversif. Mais les choses évolueraient différemment. Et là, on peut aussi voir la différence entre la Guadeloupe, qui n'est pas autant attachée à la France, me semble-t-il, que la Martinique. Est-ce que je n'ai pas si j'ai tort de dire ça?
Would it be better if there was just one language in the world that everyone spoke?
This sounds like colonialism, guys.
Boom, cancelled. I was kind of going for like Tower of Babel and stuff, Christianity, which obviously is also colonialism.
Very Eurocentric. But yeah, there have been many attempts to make that. We have people trying to make languages which are easy for everyone to learn, but it's really just a very Eurocentric thing.
Esperanto.
It's just a product of human development. When we talk, we tend to make certain idiosyncratic patterns. The way that I speak is not consistent. I sound like this because I'm in the UK, but I'm not going to sound like this back home. Like, as people sort of develop and as societies grow and as more people come into contact with each other, it's very natural for kids to pick up these idiosyncrasies from their parents. So even if we, at some point, we had one unified language or we all woke up one morning speaking one unified language, it would eventually diverge again into a million other languages, as it has always been in history.
Pour finir, je vous ai montré cette vidéo d'un jeune linguiste de l'université d'Oxford qui s'appelle Cody Brody et qui réfléchit et en fait qui dit que c'est impossible cette idée d'une langue universelle, que selon lui, l'idée d'une langue universelle, c'est un projet eurocentré, colonialiste. À l'entendre parler, on a presque l'impression, et ça c'est, j'ai envie de dire, assez contre-intuitif, que les êtres humains ont besoin de ne pas se comprendre. Que si on crée, il dit en fait, si on crée une langue universelle, automatiquement derrière elle se transformerait en des millions de langues pour exprimer des réalités différentes, des choses. Je voudrais votre avis sur ce sujet.
Il a raison d'exprimer ses inquiétudes. Évidemment, nous avons besoin de nous comprendre les uns les autres, mais on peut le faire en apprenant la langue de l'autre. Si on préfère une seule langue universelle, la langue de qui et au profit de qui? Et ça, c'est toujours un problème. Par exemple, dans la francophonie, on veut bien que tous les habitants des États ou des nations dites francophones parlent français. Est-ce que ça sert vraiment les intérêts de toutes ces nations? Ou est-ce que ça sert les intérêts d'une nation suprême qui voudrait avoir la tâche facile? Ces citoyens peuvent voyager partout dans le monde francophone et ils n'auront pas de problème à communiquer avec les gens, alors que les gens qui viennent de ces nations francophones, parce qu'ils parlent français avec un accent, on les ridiculise quand ils arrivent en France en disant qu'ils ne parlent pas bien français. Donc, voilà des choses. Et alors, au marché du travail, évidemment, on va préférer des gens qui parlent le français, tel qu'il est parlé en France, surtout dans les organisations internationales. Ça défavorise beaucoup de gens du monde francophone. Et donc, l'avantage que l'on tire à devenir francophone ne semble pas évident. Il y a beaucoup de dimensions politiques et économiques dans tout ça. où on devrait se poser, au point où on devrait se demander, dans l'intérêt de quel groupe est-ce que nous allons évoluer vers un monde, un univers monolingue. Ça, c'est un aspect de ça. Mais les inquiétudes que les gens expriment depuis une trentaine d'années en disant l'anglais va remplacer toutes les autres langues au monde, moi, je ne vois pas cela arriver. Il y a beaucoup de territoires où l'anglais ne fonctionne pas comme une langue vernaculaire. On la parle seulement comme une langue seconde, une troisième, quatrième, cinquième langue pour certaines personnes. Et ça signifie que les gens mènent leur vie en fait dans une langue autre que l'anglais et ils recourent à l'anglais quand c'est nécessaire. Et si on n'opère pas dans l'univers où l'anglais est nécessaire pour certaines personnes, ça ne vaut même pas la peine de s'y investir. Et donc, moi, je ne suis pas vraiment impressionné par les inquiétudes que l'anglais va remplacer toutes les autres langues au monde. Évidemment, quand on est dans la francophonie, on nous parle des partenariats que le français devrait former avec les autres langues du monde francophone pour combattre l'expansion de l'anglais. Et c'est à nouveau une nouvelle question qui se pose. Mais c'est au profit de qui? Ce sont deux langues impériales qui sont en compétition l'une avec l'autre. Et il y a cette langue particulière qui veut le partenariat des autres langues du monde francophone. Mais les locuteurs traditionnels du français ne s'investissent pas dans ces autres langues du monde francophone. Est-ce que ce partenariat lui-même ne mettrait pas en danger les autres langues indigènes? Il n'y a pas que l'anglais qui met en danger les langues indigènes. C'est toutes ces langues impériales qui pourraient mettre en danger ces langues indigènes. Pour moi, c'est quelque chose que l'on devrait apprendre à comprendre d'une autre façon, tant au point de vue des inquiétudes qu'au point de vue du souhait qu'une langue particulière devienne la langue universelle pour tout le monde.
Je trouve ça d'autant plus fort que c'est un Martiniquais, un Congolais dans une université américaine qui ont ce discours sur la langue française. D'ailleurs, ça me fait penser à plusieurs choses avant de conclure. La première, c'est qu'il y a quelques mois, le Mali a enlevé le français des langues officielles du pays. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a vu la même chose arriver au Rwanda il y a quelques années également. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le temps nous montrera tout ça. Un dernier mot à ajouter, peut-être. Est-ce que vous avez quelque chose dont vous vouliez nous parler?
On a beau stipuler que l'anglais deviendrait une langue officielle du Rwanda, mais il y a toujours des Rwandais qui parlent français et qui préfèrent parler français. Et la direction générale de la francophonie est occupée par une Rwandaise. Ça, c'est très intéressant. Il y a une sorte de contradiction dans tout ça. Il y a un pied dedans, un pied dehors. La question devrait être, pourquoi remplacer une langue occidentale par une autre langue occidentale? Si on veut vraiment être authentique, on devrait promouvoir, dans le cas du Rwanda, c'est le Kinyarwanda qui devrait être promu à la place du français et de l'anglais. Et moi, je n'entends pas ce discours-là.
Professeur Moufouené, merci beaucoup pour toutes ces lumières, pour toutes ces explications. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous aura inspiré et donné envie de lire cet article qui est disponible gratuitement et en français sur le site de l'Université de Chicago. Cette émission a été réalisée par Juliette Frégui, que je remercie. Je remercie la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour leur soutien et également l'Université de Chicago pour l'accueil. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, suggestions, je suis tout ouïe. Si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de le faire découvrir à des proches. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un email leparinoir@gmail.com en lot de soleil.